Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et vous pouvez soutenir mon travail sur Patreon. Vous en saurez plus en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute! Aujourd'hui sur So Sweet Planet, j'ai le plaisir de recevoir Fakir, de son vrai nom Théo le Vigoureux. Donc Fakir, on va rester sur ce nom qui est son pseudo de scène, auteur, compositeur et musicien français de musique électronique. On voit aussi souvent ajouter le qualificatif organique. Je pense que c'est bien de le rajouter, même si finalement les deux ensemble, ça reste encore un peu réducteur par rapport à l'ensemble de ton univers, mais on va en reparler. Né en 1991 à Caen, et je le reçois pour parler de son cinquième album, Talisman, de son parcours et aussi un peu de son cheminement par rapport aux enjeux de notre planète. Bonjour Fakir, bienvenue sur So Sweet Planet.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Tu es tombé, je crois, dans la marmite à ta naissance, puisque si mes sources sont bonnes, tes deux parents sont professeurs de musique.
Oui, c'est ça, absolument. Ils ont eu tous les deux un parcours, un peu parallèle au parcours traditionnel conservatoire, et du coup, ils ont tenu aussi à me faire emprunter cette voie-là. Et je pense que c'est quelque chose qui a été très très bénéfique parce que eux avaient un peu en horreur le côté très très académique et très scolaire en fait de l'apprentissage de la musique. Ils voulaient que ça reste quelque chose d'amusant en fait, de ludique. Du coup, ils me l'ont appris comme ça. Du coup, j'ai appris à créer, enfin à lire la musique en même temps que j'apprenais à lire et à écrire le français. Et ça a été toujours un truc un peu de l'ordre du hobby en tout cas en parallèle de mes études quoi.
Donc avec la notion de plaisir assez présente, si je comprends bien.
Ouais. Sans que ça devienne des devoirs à faire en plus. En fait, on poussait les choses un peu plus loin, ça me décourageait. Puis en fait, j'abandonnais le truc. Et finalement, c'est rigolo parce que cet apprentissage par le plaisir, par quelque chose de très ludique, je pense que c'est ça qui m'a guidé sur la voie de l'autodidacte, enfin en fait de décrocher d'un parcours musical académique et de commencer à moi expérimenter en fait avec les machines, avec les synthés, avec différents instruments et à être autonome en fait dans mon parcours quoi.
Et est-ce qu'on peut te demander donc ce qu'on écoutait chez toi?
Ça allait de c'est assez varié. Ça allait de la musique classique parce que le parcours de mes parents et avant ça aussi de mes grands-parents du côté de ma mère aussi qui était musicien et du coup qui écoutait beaucoup de musique classique, donc il y avait un fond, un tapis de classique toujours très présent. Beaucoup de rock, mes parents étaient un peu plus rock and roll que jazz ou ça, et pas mal de musique du monde en fait. Quand j'étais petit, il y avait aussi cette dimension musique africaine très présente. En fait, ils étaient très curieux, très ouverts sur musique du monde, c'est très réducteur, mais en tout cas sur la culture africaine et sur les musiques africaines. Donc j'en ai beaucoup mangé quand j'étais petit. Et finalement, les choses desquelles j'ai été très loin pendant longtemps, ça a été le jazz et le hip-hop. Et la musique électronique aussi quelque part finalement qui est issue un petit peu de enfin comment dire qui est très connectée au jazz et au hip hop. En fait j'ai accédé que très tard quoi. Moi j'étais un gamin du rock vraiment, j'ai grandi avec ça quoi.
Et le rock c'était qui alors pour toi à l'époque?
Moi comment dire, ce qu'on écoutait au collège, au lycée, etc. c'était la période du néo-metal, on a appelé ça comme ça, Linkin Park, voilà, les débuts de Muse, Marilyn Manson, les trucs un peu plus durs comme ça de métal. Et en fait, quand j'ai commencé à être un peu plus, mature, ou en tout cas à m'intéresser un peu à l'histoire du rock, en fait, j'ai découvert tout le rock classique des années 70, et c'est ça qui m'a vraiment contaminé. Oui. Et que ce soit les Pink Floyd, qui sont toujours maintenant une énorme référence, et ou Led Zeppelin, Genesis, le King Crimson, etc. C'est des choses qui m'ont fait vraiment qui m'ont donné mes claques primordiales de ce qu'est la musique et ce qu'est la musique électronique aussi quelque part. J'ai vraiment, je pense, goûté à la musique électronique pour la première fois via les Pink Floyd en fait.
J'ai lu aussi qu'avant l'électro, donc tu es passé par le rock, mais tu as appris aussi à jouer de quelques instruments.
Oui, j'ai commencé par le saxophone parce que parce que quand j'étais très jeune, je pense que je trouvais que c'était un instrument vraiment rigolo. Et j'en ai fait du coup en école de musique pendant 5-6 ans, mais bon, j'étais très petit. Et puis bah, c'est là justement, c'est une des premières expériences qui m'a fait réaliser que en fait l'apprentissage scolaire, c'était pas fait pour moi. Et de la musique, je veux dire. Donc en fait, quand j'ai commencé à devenir un petit peu meilleur au saxophone, bah, j'ai décroché parce que c'était trop exigeant, ça me demandait trop de discipline, de rigueur, et puis j'avais envie que ça reste un truc fun, donc j'ai arrêté. Et puis après, je me suis mis à faire. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté le saxophone. L'autre raison, c'est que j'arrivais au collège et que j'avais très vite compris qu'au collège, si on faisait de la guitare, ça plaisait aux filles. Du coup, je me suis mis à faire de la guitare un peu par moi-même. Et puis, c'est devenu mon instrument un peu de prédilection pendant une dizaine d'années et qui m'a accompagné dans toute cette période un peu rock. Et en fait, à la fin, je suis arrivé un peu naturellement à jouer du piano et à faire des claviers, parce qu'en fait c'était l'instrument un petit peu, comment dire, couteau suisse quand on se met à la musique électronique, et puis même quand on entame un peu des études de musique, etc. Il fallait savoir jouer du piano, quoi. Du coup, et je suis resté depuis très très amateur de piano.
Ok. Quelques mots sur ton pseudo?
Ouais, Fakir, bah Fakir, c'est une histoire, hein, qui est un peu comment dire, qui se raccroche à tout ça, c'est-à-dire c'est la fausse oreille, en fait, c'est fake ear à la base, la racine du jeu de mots. Et c'est parce que justement je suis parti du rock et que je suis allé faire de la musique électronique, et que mes copains restés dans le rock m'ont un peu regardé de travers, quoi. Mais ils m'ont dit, tu vas faire de la fausse musique parce que tu n'auras pas un bout de bois avec des cordes entre les mains, quoi. Et du coup, c'était une sorte d'auto-vanne.
Oui, et finalement, il y a quand même des vrais instruments sur ce que tu
Bah
fais.
oui. En fait, finalement, la musique électronique pour moi, ça a été avant tout faire de la musique avec un ordinateur plus que faire de la musique électronique. En fait, la culture de la musique électronique, house, club, la French touch, etc., c'est pas quelque chose avec lequel j'ai grandi, et j'étais pas forcément très sensible. Et toujours maintenant, d'ailleurs, la musique avec que du synthétique, enfin comment dire, que des synthétiseurs, quelque chose de très froid comme ça, c'est pas la musique que j'aime écouter. Il y a quelque chose, en fait, dans. J'ai accédé à cette musique-là et à ce genre-là parce que c'est pratique. Parce qu'en fait, on peut en faire tout seul, on peut enregistrer ses propres trucs, on n'a pas besoin d'être 1000 dans un groupe et tout ça. Et puis moi, à la fin de mon expérience un peu rock, disons, j'avais un peu marre de gérer les égos de chacun. Enfin, j'avais envie que ça avance. Et puis du coup, je me disais, bah, je vais faire tout seul. Et en fait, il y a toujours ces vrais instruments. J'ai toujours. Tout un tas d'instruments à enregistrer quand je me mets à faire un morceau, parce que pour moi, c'est ça, quoi. La musique électronique, c'est d'abord de la musique qui est enregistrée par ordinateur, traitée avec un ordinateur, et donc en fait, on peut devenir un homme orchestre très rapidement, quoi.
Je dis ça parce que j'ai regardé une petite vidéo que tu as réalisée, enfin avec une autre amie, je crois, pendant le confinement. Et vous êtes parti en
Ah oui.
tournée, en fait, dans des salles vides. Donc, on vous voit vous éclater dans le bus, comme un groupe en tournée, sauf que vous êtes tout seul. Et là, on sent bien l'ambiance, en fait, du groupe. On voit qu'il y a des vrais beaux instruments, puisque ce sont les personnes qui sont avec toi dans ce petit film sont et qui t'accompagnent, du coup, sur scène, sur les pseudo-scènes, sont des musiciens eux-mêmes. Donc là, on voit bien que t'es pas tout seul avec ton ordi, quoi, en fait. Il y a quand même cet esprit de bande et de vraie musique sur scène.
Carrément. Et je pense que d'ailleurs, c'est
De vrai, je veux dire par vrai,
oui.
pas au sens
Non, mais
péjoratif, par rapport
de réel, quoi.
avec des vrais
Ouais.
instruments, quoi.
Oui, c'est
Oui.
vrai. En plus, bah, je pense que c'est vraiment mon héritage du rock, en fait. Parce que maintenant, en studio, je suis de plus en plus électronique au sens un petit peu littéral. C'est-à-dire, je vais vraiment, comment dire, composer à l'aide de synthétiseurs, me faire aider par des gens qui sont très. Très bon et très, comment dire, vraiment dans cette mouvance-là. Mais par contre, dès qu'on part en tournée, dès qu'il y a la dimension concert en plus, là, mais moi, mes modèles, en fait, c'est pas les DJ, quoi. C'est pas très excitant pour moi de me dire, bah, je vais monter sur scène comme tel DJ ou tel truc. Non, moi, mes modèles, c'est des rockstars, en fait. Mais des rockstars des débuts des années 90, avec les concerts complètement démesurés, les Guns N' Roses, les Stones, les U2, je sais pas. Moi, c'est avec ça que j'ai grandi comme modèle. Et du coup, pour moi, la scène, c'est un partage avec les gens sur scène, un partage avec le public. Et puis, moi, me dépasser, quoi. Du coup, c'est vraiment un truc où j'adore finir en sueur, par terre, à casser mes machines. Enfin, du coup, je le fais pas parce que ça coûte un peu cher, mais c'est presque un peu la volonté, quoi. C'est un espèce de moment hors du temps où on se dépasse complètement, quoi.
Et donc, tu t'es fait remarquer par un Olympia complet alors que tu n'avais pas encore sorti d'album. Donc, juste, il y avait juste des titres et des EP. Comment tu pourrais nous résumer ton parcours musical en quelques mots en tant que fakir, en fait, pour nous dire ce qui a précédé cet album dont nous allons parler juste après.
C'est dense et puis ce serait difficile de le synthétiser vraiment rapidement. Je pense qu'il y a plein de choses qui s'entremêlent aussi avec le parcours d'un jeune homme qui démarre et qui se professionnalise là-dedans. En fait, moi, j'ai commencé à faire vraiment, enfin, à créer le projet Fakir, on devait être en 2010 ou 2011, donc voilà, j'avais 20 ans, à peine, tout juste 20 ans, et du coup, j'étais pas cette maturité, j'étais pas arrivé au bout de ma construction. Donc en fait, c'est le succès est arrivé relativement rapidement parce que en fait, fin 2012, début 2013, je commençais à me produire, à sortir mes premiers EP avec un label, à avoir des morceaux qui passaient en radio, donc j'avais 21, 22 ans. C'était tôt, c'était trop tôt. Maintenant, avec le recul, j'ai envie de dire que c'est trop tôt. Parce que, voilà, il y avait plein de choses que j'avais besoin encore d'expérimenter, même musicalement, j'avais besoin aussi de tenter des choses. Et en fait, ça m'a fait une sorte de formation très, très accélérée sur comment faire de la musique et qu'est-ce que c'est une identité musicale, qu'est-ce que c'est un projet, comment ça fonctionne, toutes les instances de la musique, tout ça, j'ai dû me apprendre ça un peu sur le tas très très rapidement. Et donc voilà, on s'ensuit quelques EP dans mon label un peu de cœur, chez qui je suis de retour d'ailleurs, Nowadays Records, qui est aussi le label de La Fine Équipe, de Clément Bazin, qui m'a un peu vu naître et qui m'a accompagné dans ma croissance.
Oui, c'est ça. Tu as fait un petit intermède chez Universal, voilà. Et tu es revenu aux premières années.
Oui, exactement. En fait, après ces premiers, ces petits EP, vient le moment de faire le premier album Animal, et à ce moment-là on profite un petit peu de l'ascension qu'on est en train de prendre, donc on se dit bon bah ce serait bien d'essayer de tenter quelque chose de plus gros entre guillemets, donc on va taper aux portes des majors, Warner, Sony, Universal, et donc on signe chez Mercury, qui est une des maisons d'Universal, et on fait ce premier album, enfin on signe un truc de trois albums même, donc on fait trois albums chez eux. Et c'est une expérience qui est super sur plein de plans, parce qu'en fait, ça m'a appris beaucoup ce que je voulais pas et comment ça fonctionne dans ce genre de sphère, en fait. Finalement, dans le milieu un peu indépendant, on est très préservé de comment dire, des pressions, des majors. Alors, on les connaît parce qu'on a l'impression, on les fantasme, en fait. On a l'impression que c'est des gros producteurs véreux derrière leur bureau à fumer leur cigare et à dire, tiens, signe cette petite ligne en bas que tu n'as pas lue. Et en fait, ça marche un peu comme ça. Ça marche toujours un peu comme ça, mais à la sauce 2023. C'est-à-dire que maintenant, les gens te disent ce que tu as envie d'entendre. Et ils te disent, oui, viens chez nous parce qu'on va développer ta carrière, parce qu'on va faire un beau projet. Et puis, en fait, bah non, en fait, 6 mois plus tard, ils sont partis parce que eux, c'est aussi leur carrière qui est importante. Et c'est pas, je dis pas ça vraiment d'une manière critique ou péjorative, c'est vraiment un modèle en fait. C'est juste que eux ont une carrière en tête pour eux et sont là pour signer des projets, faire exploser ces projets, les faire marcher très fort sur un temps donné très court. Et en fait, si c'est pas ça l'objectif de l'artiste, on se retrouve très vite en décalage. Et moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé, quoi. On n'arrivait pas à accorder nos violons avec Universal parce que moi, je voulais construire un truc album après album. Devenir de plus en plus dans la durée, devenir de plus en plus pertinent, devenir moi aussi continuer de forger un peu mes armes. Et en fait, Universal, eux, voulaient me faire exploser, que j'ai deux hits et puis après, on passe à autre chose, quoi. Donc voilà, ça a été l'étape un peu grosse maison de disques, un peu dans la grosse industrie de la musique. J'ai compris que ça ne me plaisait pas et du coup, là, au terme de mon contrat, je suis rentré, entre guillemets, chez Nowadays, qui était mon premier label. Et depuis, oui. Ça se passe super. Et effectivement, j'ai l'impression que c'était ça qu'il fallait faire, quoi.
Tu dis que tu réussis maintenant à t'affranchir des tentations de mimétisme que tu pouvais avoir envers des artistes que tu admirais. Donc, on sent, même au travers de tout ce que tu viens de dire, une quête pour aller vers ta véritable identité artistique. Qu'est-ce qui, quand tu dis que maintenant tu as réussi à t'affranchir des tentations de mimétisme, qu'est-ce qui t'a permis d'en arriver là? Est-ce que c'est juste le déroulement de l'histoire, le temps en fait? Ou est-ce qu'il y a eu des rencontres ou des événements qui ont fait que tu t'es affirmé et que tu as trouvé aussi, même si le chemin va continuer, j'imagine que l'évolution ne va pas être figée au jour d'aujourd'hui et que tu vas, j'espère pour toi, continuer à évoluer et à développer aujourd'hui cette identité, mais au moins par rapport au fait que tu l'as trouvé et que tu es aligné avec ce que tu ressens profondément et ce que tu as profondément envie de faire.
Bah C'est une somme en fait de plein de choses. Effectivement, il y a énormément juste le temps et la maturité en fait, le fait d'arriver vers la trentaine, on commence à être plus équilibré, plus construit, plus affirmé, plus confiant en ce qu'on est aussi. Et je pense que ça a énormément participé. Et effectivement, il y a l'entourage aussi qui a énormément joué, que ce soit mon entourage pro, mon entourage perso, à la limite, je mettrais bien l'emphase sur l'entourage pro parce que il est pas évident en fait à trouver. Autant l'entourage personnel, on évite, attaché à nos bandes de copains, même à notre famille. Enfin, on peut trouver du soutien à droite et à gauche, mais l'entourage professionnel, il est pas évident d'en trouver un qui est vraiment sain et qui va vraiment nous soutenir dans notre parcours, comprendre là où on veut aller. Et là, c'est vraiment le cas. Et je pense que nowadays, en fait, on
et t'aider à révéler en fait.
Oui.
À révéler ce que tu as vraiment à l'intérieur de
complètement,
toi.
À comprendre en fait, avoir même une sorte de vision finalement sur ma direction artistique. Alors je suis désolé, il y a du bruit derrière, en fait c'est mon chat, tout simplement, qui fait n'importe quoi.
C'est pas grave, j'ai déjà eu un chat sur le dernier podcast qui est venu sur l'ordinateur de mon invité et qui a fait ses petits miaou pendant sur des passages que j'ai vraiment pas pu couper, donc ça va devenir familier pour les auditeurs et auditeurs de Sauce Planète. Oui.
Oh là là, ouais, en plus il est dans un moment de jeu extrême, mais bon, c'est bien, il est autonome. Je disais, finalement l'entourage professionnel, je parle de Nowadays énormément, du label en fait, parce que c'est eux qui m'ont donné ce nouveau souffle. En fait, moi, il y a eu un moment pendant le Covid qui a été très très douloureux. C'était à la fois la fin de mon contrat chez Universal, la fin aussi de ma collaboration avec mon tourneur. Donc, j'avais un nouveau tourneur avec qui je n'avais jamais bossé. J'avais pas de label. Et puis, on se prenait une pandémie sur le coin de le visage. Ça m'a pas fait du bien du tout. Et du coup, j'étais vraiment dans un état de doute, comme j'ai jamais eu de ma carrière, quoi, où je me suis dit que j'allais arrêter, qu'en fait, j'allais mettre vraiment Fakir de côté et qu'il était temps de faire autre chose, en fait.
Autre chose musicalement ou autre chose, complètement autre chose que la musique?
Non, autre chose musicalement, ouais. Non, il y avait quelque chose. Après, moi, j'ai toujours été très, très, aussi très intéressé par la technique du spectacle vivant particulièrement. C'était vraiment mon projet professionnel avant que la musique, ça fonctionne.
Ah oui.
Et du coup, voilà, j'envisageais ça, j'envisageais plein de trucs. J'envisageais aussi de composer pour d'autres, de faire de la radio, parce que j'avais une petite expérience radio qui m'avait beaucoup plu quand j'étais étudiant. Donc, il y avait plein de choses qui émergeaient.
À composer des musiques de films, j'ai vu.
J'en ai fait un petit peu, ouais. C'était pas oui. Pareil. C'est pas été une expérience super, super plaisante finalement, parce que en fait, je pense que c'est aussi une histoire de genre et de créneau, quoi. Moi, je me vois bien. Enfin, en fait, j'adorerais faire ça, de la musique à l'image, mais je me vois bien faire de la musique de jeux vidéo ou la musique de dessin animé. Mais la musique de film, en fait, finalement, j'ai pas trouvé mon chaussure à mon pied dans le cinéma français pour l'instant. Mais par contre, je suis très ouvert à recollaborer plus tard, quoi. Et du coup, ouais, en fait, au sortir de cette espèce de phase de doute pendant le Covid, en fait, les gens chez Nowadays, eux, ils sont venus un petit peu me repêcher et ils m'ont dit, mais en fait, il faut pas douter. C'est l'histoire de Fakir, elle est super. Il y a plein de choses encore à construire. Nous, on va t'aider à construire ça. Tiens. Reviens chez nous, tu vas voir, ça va être bien. Et effectivement, ils ont eu vraiment raison et ça a été ils m'ont réconcilié en fait avec mon projet, quoi, et avec le fait d'avoir aussi 10 ans de carrière. Moi, j'étais habitué un peu à ce statut de pas de découverte, mais voilà, Fakir, c'était un artiste émergent. Quand on est artiste émergent, on a pas mal de passe-droits. Les médias sont très indulgents avec nous, on est scruté, mais en même temps, il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité pour ce qu'on fait. Et en fait, quand on sort de ce statut, on devient, en quelque sorte, on fait partie des meubles. Et là, en fait, le défi, il est extrêmement compliqué. C'est celui de rester pertinent, de se renouveler, d'évoluer, de proposer quelque chose. Et puis là, d'un coup, on se rend compte que les pros, ils nous pardonnent plus, quoi. Il y a quelque chose où il faut, soit on est bon, soit on disparaît. Et en fait, c'est aussi assez cruel. Et je pense que c'est une étape qui m'a fait un petit peu peur et qui m'a un peu impressionné. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas ressortir quelque chose de nouveau sous un nouvel alias, peut-être, ou quelque chose comme ça, parce que ça m'aurait remis dans cette phase d'artiste émergent ou d'artiste découverte et qui est assez confortable, quoi. Donc voilà. Mais là, maintenant, c'est bon, j'ai compris. Et grâce justement à l'entourage, je peux affronter cette nouvelle période de carrière et cette décennie hyper serein et puis solide sur les appuis, quoi.
Oui. Et donc, tu as décidé avec cet album d'afficher un peu plus tes convictions écologiques. À quel moment, en fait, toi, tu as commencé à prendre conscience de la situation qui est la nôtre sur cette planète et avec cette
Je
planète?
pense que c'est arrivé super tôt. C'est arrivé vraiment dès l'enfance, dès la petite enfance. En fait, mes parents étaient très sensibles à cette cause-là et m'ont sensibilisé, je pense, très jeune. Et puis ensuite, ça a été un tout. En fait, je crois qu'on est une génération début 90. On se rendait compte de l'urgence. On l'avait pas encore théorisé, mais en fait, il y avait des lanceurs d'alerte. C'était vraiment les prémices de se dire, on fonce droit dans le mur. Et en fait, c'est passé aussi via des médias très, comment dire, très simples. C'est-à-dire, moi, j'ai grandi avec les Disney, et avec aussi l'arrivée des films de Miyazaki en France. Et c'est rigolo parce que c'était vraiment nouveau, quelque chose de très, voilà, les animés japonais, on en avait quelques-uns, on avait Dragon Ball, etc. et tout, mais ça restait quelque chose d'un peu niche, un peu violent, bizarre. Enfin, on se demandait ce que c'était. Et
Oui.
Miyazaki est arrivé avec sa poésie. Et en fait, mes parents m'ont collé le nez là devant Princesse Mononoké, Le Voyage de Chihiro, etc. Et ça a été une révélation, en fait. Enfin, moi, ça a été vraiment les premières claques écolo, ça a été Miyazaki, quoi. Et c'est ce que
Oui.
j'ai.
Pomme aussi, elle est très fan de
Ah,
Miyazaki,
c'est vrai. Oui,
la
ça
chanteuse
m'étonne
Pomme,
pas. Oui, j'avais vu
oui.
qu'elle avait repris le thème de la chanson de Crédit Chihiro. Elle avait fait une cover qui était très belle et tout.
Oui. Quand je l'ai interviewée, elle avait même un petit pantalon avec des impressions qui venaient
Ah ouais,
de films de
trop la
Miyazaki.
classe. Mais ouais, mais finalement, c'est pas étonnant parce que il a quelque chose de fort, Miyazaki, parce qu'il vient, en fait, il vient pas nous éveiller politiquement à la cause. Il vient chercher de les, il nous fait ressentir des choses, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, en fait. À la fin de Princesse Mononoké, il nous dit pas, faut défendre la nature, mais on a envie de la défendre parce qu'on a ressenti des émotions hyper fortes, en fait, liées à ça.
Oui.
Et du coup, c'est quelque chose qui a été très, très fondateur. Et puis même, finalement, des discours un peu dilués dans les Miyazaki, c'est vrai que je citais ça aussi en exemple, mais dans les années 90, c'était le moment où Disney aussi faisait beaucoup des dessins animés avec les animaux. Les animaux parlent. Du coup,
Oui,
on est
oui.
attaché, voilà, bon, laissant un dalmatien, le roi lion, c'est extraordinaire. En plus, le roi lion, ça prend place dans la jungle. Il n'y a pas un truc où, comme dans les 100 dalmatiens ou les Aristochats, c'est en ville. Là, c'est dans la jungle avec des animaux qui parlent. Donc, en fait, la conscience il faut prendre soin des animaux, il faut les respecter, il faut prendre soin de la nature, etc. Elle est éveillée par ces trucs-là super tôt. Et ensuite, moi, je continuais un peu à cultiver ça un peu en filigrane. Je pense toute mon enfance. Et en fait, arrivé au lycée, je suis devenu très, très militant, très politisé. Et ça a été un peu les prémices de, voilà, c'était au moment du CPE, au moment de la loi de privatisation de l'université, etc. Moi, j'étais très, très, comment dire, très fervent gauchiste, manifestant, écolo, etc. Donc là, je continue de mettre un petit peu de l'huile sur le feu. Et finalement, quand j'en arrive à la musique, à faire de ça mon métier, je décroche un petit peu de mon militantisme politique parce que, en fait, bah voilà, j'ai finalement plus de temps à consacrer à ça. Faut que je me mette dans la musique corps et âme. Et puis, il y avait quelque chose aussi d'un petit peu effrayant dans le fait de se politiser directement avec un projet musical. J'avais peur, en fait, de rentrer, je le dis souvent, mais j'avais peur d'être étiqueté artiste engagé. Et parce qu'à l'époque où je démarre, en 2009-2010, artiste engagé, c'est encore un petit peu péjoratif, c'est un peu trio, quoi. Et bon, alors j'ai rien contre trio. Hein.
Enfin, du coup, t'es dans une case, quoi.
Voilà, ouais. Mais du coup, je me dis, bon, bah oui, je vais d'abord être très neutre, très sage, en fait, sur le côté politique. Et finalement, comme tu disais, en fait, le discours se désinhibe un petit peu, quoi, entre guillemets, on en parle plus facilement, les artistes se politisent beaucoup plus et se politisent d'une manière qui est hyper fine, en fait, je trouve. Bah, Pomme, c'est un super exemple. Pour moi, je trouve ça génial, la manière dont elle a d'en parler. C'est vraiment, elle fait de la musique et on va jamais la réduire à son combat, Pomme. Et moi, c'était ça qui me faisait peur. Et du coup, de voir que ça y est, c'est autorisé, en fait. On peut avoir un combat, on peut défendre ces valeurs-là de manière forte, sans être réduit à ces valeurs, sans que la musique perde son importance. Et ben moi, c'est ça qui m'a réveillé. Et puis en plus, après, voilà, le fait de connaître bien Camille Etienne et de la fréquenter, c'est, je pense, quelque chose qui m'a aussi poussé.
Oui, on va en parler aussi.
Voilà,
oui.
Ça m'a aussi poussé dans cette direction.
J'imagine, oui.
Oui, du coup, voilà, ouais, tout simplement.
Aujourd'hui, en fait, quand on parle de la planète, il y a énormément de choses, hein, par rapport aux extinctions, par rapport à la perte de la biodiversité, par rapport au climat, par rapport à... Il y a de nombreux enjeux. Toi, est-ce qu'il y a des sujets qui te préoccupent plus particulièrement ?
Ouais, il y a pas mal de trucs. Je pense qu'il y a... Moi, il y a quelque chose qui me... Il y a plusieurs. En fait, finalement, tous les sujets sont aussi importants parce que dès qu'on s'intéresse à un sujet, en fait, et qu'on plonge un peu dedans, on se rend compte à quel point
tout est lié,
puis à quel point c'est merveilleux, puis à quel point c'est dramatique que ça s'en aille comme ça. Là, par exemple, au début de l'année, là, j'ai été jouer à Tahiti, en Polynésie, et j'ai eu la chance d'aller rencontrer une association qui s'appelle les Coral Gardeners, qui sont en fait des gens qui replantent la barrière de corail en Polynésie. Et bah alors voilà, c'est pas un milieu duquel je viens, c'est pas un sujet auquel j'ai été sensibilisé parce que bah, je suis plutôt normand et dans la Manche, il n'y a pas trop de coraux. Et du coup, là, de plonger et d'aller les voir, d'un coup, je me suis dit, mais j'ai envie d'en faire mon combat aussi. Et tout est assez dingue. Moi, je pense que j'ai grandi assez proche de la campagne et du coup, il y a quelque chose dans la forêt qui me préoccupe beaucoup et qui me parle aussi particulièrement. En ayant grandi en Normandie, il y a la proximité de la mer aussi, évidemment. Donc, il y a un truc lié à l'océan aussi, oui, qui est assez fort. Mais ouais, sinon, je saurais pas pointer du doigt un combat plus important qu'un autre pour moi. Mais j'imagine que la forêt et la mer, c'est peut-être des éléments dont je me sens plus proche. Ouais.
D'accord. Donc, la forêt par rapport aux questions de déforestation et
ouais,
tout ça.
Et puis,
ouais,
de défense des forêts vierges, la biodiversité dans les forêts. Enfin, tout ça, c'est trop intéressant. Oui. Quoi.
Les forêts primaires, ouais. Tout ça. Alors, comment se concrétisent tes engagements pour la planète dans ta vie quotidienne et dans ta vie d'artiste ? Et je précise que ce n'est pas une question piège, hein, parce qu'on est tous...
Perfectibles.
Personne n'est parfait, je dirais. On a tous une marge de progression, je pense, sur laquelle on essaie d'avancer et ce n'est pas facile.
Carrément. D'autant plus en habitant Paris. Il y a plein de choses à faire et plein de choses à mettre en place, mais c'est aussi très difficile finalement. Il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles on est limité par la ville tentaculaire, quoi. Et du coup, ouais, dans ma vie quotidienne, c'est quelque chose de, je pense, qui est en constante évolution et constamment en train de se perfectionner, que ce soit à partir du tri des déchets, à partir de moins consommer de manière générale. Il y a quelque chose de très lié à la décroissance. Que moi j'aime beaucoup cette idée en fait et c'est quelque chose que j'essaye de mettre en application tous les jours de que ce soit la nourriture, les textiles, que ce soit, enfin il y a plein de choses en fait sur lesquelles on peut agir et j'ai l'impression que c'est un petit peu le nerf de la guerre en fait le moins consommer, c'est vraiment quelque chose moi qui me paraît être un peu la clé vers une vraie porte de sortie, une vraie solution, quoi. J'ai l'impression que c'est en plus en venant du, comment dire, en ayant grandi au début des années 90, on n'avait pas vraiment conscience de ces trucs là donc il y avait une forme d'opulence un peu matérielle, un petit peu, voilà, on n'avait pas trop conscience de quel point ça avait un impact
et d'incitation à la surconsommation.
Et d'incitation à la surconsommation, totalement, quoi. Alors que maintenant, c'est vrai que, bah voilà, on a beaucoup plus conscience de ça, le message est passé. Donc moi, dans la vie quotidienne, je dirais que c'est ça. Après, sur l'alimentation, évidemment, essayer de consommer local au maximum, organique, bio, de se renseigner sur d'où viennent les choses et d'où viennent les aliments, essayer de consommer de saison. Ça, c'est aussi c'est quelque chose de très important. Après, bon, bah, voilà, on habite Paris. À Paris, il n'y a pas de production locale qui est très importante. Il faut, de toute façon, ça fait de la route. Et ça, on en a conscience. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose de plus difficile à mettre en place. Après, dans la vie professionnelle, dans la vie, disons, dans la vie de fakir, il y a plusieurs pôles, en fait, plusieurs angles d'attaque. Il y a le premier qui est assez facile à mettre en place, c'est le merchandising. Et ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, en fait, faire du merch de seconde main ou pas du tout. Là, par exemple, moi, j'ai fait toute la tournée. Là, on l'a fait sans t-shirt, sans sweat, sans rien. On produit pas parce que, bah, pareil, dans cette idée de décroissance, on s'est dit finalement, le meilleur moyen de ne pas polluer, c'est de ne pas produire. Donc, on fait des. Alors, il y a des CD, les vinyles qui sont là et qu'on emmène avec nous quand même. Mais par contre, on fait rien d'autre, on ne fait pas de produits dérivés, quoi.
Et quand tu dis du merch de seconde main, ça consiste en quoi en fait?
Bah, ce serait. Ce serait faire de l'impression sur des vêtements qu'on récupère en friperie ou des choses comme
d'accord.
ça. Ou l'idée là qu'on avait, c'était de faire des. De faire des patchs thermocollants. Donc, en termes de textile, c'est tout petit. Et les gens font leur propre merch. En fait, s'ils veulent une casquette fakir, ben, ils peuvent se la faire. C'est un coup de fer à repasser, puis pouf, ça colle, c'est bien. Et du coup, ça, c'était un peu une idée qu'on avait aussi à un moment donné. Donc, voilà, si on doit refaire un peu du merch parce que je sais pas, ça s'y prête ou que l'album marche terriblement bien et que d'un coup, ben, voilà, je pense qu'on fera ça. Soit de la seconde main, soit des patchs. Et après, l'autre angle d'attaque, c'est évidemment la tournée. Comment faire en sorte de moins polluer en étant sur la route constamment, c'est quand même un paradoxe déjà de base, un casse-tête pas possible. Et je sais que voilà, là-dessus, moi, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, c'est Pomme justement, parce que ce qui produit le plus de gaz à effet de serre dans la préparation d'un concert, c'est le déplacement des gens. Et là-dessus, elle, avec ses plateformes de covoiturage pour aller voir ses concerts et tout ça, ça c'est une idée qui est absolument géniale, quoi. Et après, le souci, c'est qu'on n'enlèvera jamais les 1000 tonnes de gasoil qu'on est en train de dépenser quand on est dans un tourbus et qu'on voyage en tourbus. Ça, à part des bus qui fonctionneraient à l'hydrogène ou des bus électriques de tournée, ce qui se fait pas du tout encore. On est forcément enchaîné à ces 1000 tonnes de gasoil par déplacement. Enfin, c'est un truc qui est monstrueux, quoi. Et encore, à la limite, je pense que Pomme, c'est pareil que moi. On a un bus, on a un camion. Et voilà, quand on voit des groupes comme Coldplay, et je dis pas qu'ils ont tort, parce que Coldplay, c'est génial le discours qu'ils défendent de dire, voilà, nous, on tourne pas sans qu'il y ait telle et telle condition de respecter pour l'environnement, parce que c'est très important pour nous. Mais Coldplay, c'est 50 camions. C'est au moins 4 ou 5 tourbus, et puis c'est 50 camions par continent, c'est-à-dire qu'ils ne se déplacent pas avec leur Seno, ils en recommandent une pour chaque continent. Donc, c'est très important qu'ils défendent ce discours, mais on est quand même sur des proportions qui sont tellement titanesques que voilà, il faut garder un petit peu l'échelle, quoi. Et en fait, sur la tournée, nous, à quel point, je dis nous, j'inclus un peu les artistes francophones de ma dimension un petit peu. Avec Pomme, on est déjà sur une dimension qui est déjà plus grande, mais quelles sont nos possibilités d'action sur la tournée? C'est hyper compliqué parce que le premier obstacle auquel on est confronté, c'est l'exclusivité territoriale. C'est quand on vient jouer.
Ah oui, je t'ai entendu parler de ça. Et en fait, j'étais pas au courant de ça, moi. Ça, je l'ai appris en écoutant des interviews de toi pour préparer cette rencontre aujourd'hui. Et oui, je veux bien que tu développes un petit peu parce que je pense que c'est intéressant d'en parler.
C'est assez dingue, en fait, comme truc. Parce que quand on y pense, alors, c'est assez dingue, non, parce que c'est le modèle capitaliste économique qui veut ça, mais ça s'explique comme ça, quoi. Mais en fait, donc, c'est cette clause qu'il y a dans un contrat. Quand on signe un contrat avec une salle de concert ou avec un festival, il y a cette petite clause qui dit, voilà, moi j'ai acheté le show, j'ai acheté le spectacle, tant. Et du coup, l'artiste vient jouer et il a interdiction de jouer dans une certaine zone autour de la salle, autour de la ville, pendant un temps donné. Généralement, ça couvre le département ou la région. Et c'est sur une période de 2 mois avant, 2 mois après, 3 mois avant, 3 mois après. C'est quand même une fourchette de 5, 6 mois tout de suite. Et on doit jongler avec ce truc-là. Et ce qui fait qu'en fait, les tournées qui sont préparées sont des tournées de saut de puce, en fait. On est obligé de faire de la route et pas mal de route entre chaque date parce qu'on ne peut pas se produire dans la même région. On est verrouillé par le truc qu'on fait. L'exemple très concret que je donne à chaque fois, c'est que, par exemple, quand on joue au Solidays à Paris, on ne peut pas faire Rock en Seine. C'est dans la même ville et c'est dans la fourchette de temps qui joue pas. Et puis, donc voilà, donc là, on se dit ça. Et puis, quand je l'explique comme ça, on se dit, oh là là, mais c'est absurde, etc. Et puis finalement, quand on se met du point de vue capitaliste, un petit peu, de se dire, voilà, l'économie d'un festival, elle marche comment? Eh ben, les artistes, un spectacle, ça coûte cher, de plus en plus cher en plus. Et donc, les festivals, en fait, ont besoin d'avoir cette espèce d'exclusivité en se disant, bon, ben voilà, moi, j'ai acheté le spectacle de l'artiste, j'ai envie que les gens viennent le voir chez moi. Si le pass coûte un.
Oui, ben faut, il y a aussi le stress de
Voilà,
remplir les salles.
exactement.
Donc c'est vrai que ils peuvent se dire ben, si que les gens, les jeunes ayant des budgets limités, ils vont pas aller voir deux fois l'artiste. Donc
Déjà, ils vont pas aller voir deux fois
s'ils
l'artiste.
passent dans la région pour
Bah
remplir,
oui,
oui,
et puis
c'est
en plus,
ça.
si le pass d'un tel festival coûte un peu plus cher que le festival d'à côté, qui a moins de gros artistes, mais que du coup, bah voilà, l'artiste passe aussi dans l'autre petit festival. Les jeunes vont aller le voir dans le petit. Donc, c'est vrai qu'il y a un truc du coup, bah très capitaliste de les festivals du coup sont de plus en plus gros. Il y a de moins en moins de petits.
Eh oui.
Et après, j'en ai beaucoup parlé avec un professionnel du milieu qui me disait qu'en fait, lui, l'obstacle auquel ils étaient confrontés, eux, de leur côté, c'était la flambée, en fait, des cachets des artistes. Et ça, c'est aussi un problème, du coup, qui est hyper important, quoi. Parce que eux sont obligés de payer un artiste beaucoup plus cher, donc ils vont mettre une exclusivité qui est beaucoup plus importante. Ils vont se dire, bon, bah là, il faut pas qu'il joue dans la moitié nord du pays pendant 6 mois parce qu'on l'a payé bonbon quand même. Et effectivement, c'est des arguments qui s'entendent. Et en fait, finalement, en y réfléchissant un peu.
Oui, parce que aussi on peut expliquer que c'est en partie, peut-être seulement, mais dû au fait que le disque étant moins présent et comme c'est beaucoup le streaming et que le streaming ne rapporte quasiment rien
Absolument.
aux artistes,
Mais oui.
pour réussir à continuer à vivre de leur métier, il faut aussi que la scène leur rapporte plus,
Voilà, c'est
quoi.
ça. Et en fait, c'est exactement quoi. Et c'était un peu la conclusion du truc. On se disait, mais finalement, on vient chercher cet argent qu'on n'a plus dans la vente du CD, dans les lives et dans les concerts. Donc, on facture beaucoup plus cher pour pouvoir vivre. Mais du coup, les festivals sont obligés de nous faire aussi peser cette exclusivité beaucoup plus importante. Alors après, là, on parle plus du climat. Du coup, le grand perdant de l'histoire, c'est l'environnement, quoi. Parce que du coup, on se met à faire des grands trajets, à polluer beaucoup plus et tout. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, qui est un peu pourri et qui va pas dans le bon sens en plus.
Oui, ça fait partie des nombreuses incohérences qu'il va falloir s'attacher à régler dans les temps qui
Ouais.
viennent. Et tu as participé, j'ai vu, aux Marches pour le climat en tant qu'artiste. Comment ça s'est passé et quels souvenirs tu en gardes?
C'était super. En plus, c'était dans un moment où les clubs et les festivals n'avaient pas rouvert. Donc, en fait, c'était une espèce de grande respiration de pouvoir jouer, présenter sa musique. Et d'ailleurs, pour les gens aussi, pour le
Et
public,
c'était
c'était
où?
Place de la République à Paris, juste à côté de chez moi. Du coup, en plus, c'était pratique.
Oui.
J'avais pas à polluer beaucoup. J'y suis venu à pied avec mon sac à dos. Et finalement, c'était une expérience qui était géniale parce que les gens aussi qui étaient présents, le public en fait était, on sentait qu'ils avaient besoin de ça en fait. On est d'un seul coup, ça nous faisait nous sentir essentiels avec ce discours de les professions non essentielles reprennent pas tout de suite et tout. Et ça nous a fait un peu mal. Là, d'un coup, on se disait ah oui non mais c'est tellement important en fait. Et donc ouais non, c'était une super expérience et puis c'était aussi très très galvanisant et inspirant de faire ça aux côtés de Camille, Camille Etienne, qui est elle une figure de proue maintenant de cette jeune génération écolo, quoi.
Eh oui. Et tu l'as connu comment, si c'est pas indiscret, du coup, ça vient d'où votre rencontre et jusqu'à son, du coup, sa présence sur ton album
Bah
Talisman?
en fait, elle avait une association avant qui s'appelle On est prêt, qui elle bosse toujours un peu avec, mais elle a de moins en moins le temps, j'ai l'impression. Et en fait, c'était.
Elle fait beaucoup de choses,
Oui,
hein, oui.
elle est un peu dans tous les sens. Et c'était fin 2019, il me semble, si je dis pas de bêtises, fin 2019, on est rentré en contact parce qu'elle voulait me faire jouer à une des soirées en fait de cette association. Et on s'est rencontrés à cette occasion-là. Et en fait, on est devenus très copains très très vite. Et on s'est revus beaucoup. Et puis et ensuite, elle a pris cette espèce d'immense envolée de popularité pendant le confinement.
Avec ce clip, avec la jeune femme danseuse et ce texte qu'elle dit, là aussi sur une musique
Complètement, ouais.
en montagne, je ne sais plus où ça avait été tourné,
Ouais,
mais je l'ai re-regardé ce matin du coup, oui.
c'est dingue, ça a été très intense, et puis ça a fait un buzz pas possible. Et puis en plus, elle l'a pris d'une manière hyper intelligente. Elle a carrément assuré derrière les responsabilités que ça générait, quoi. Donc non, c'est vraiment une nana qui est brillante et inspirante. Et au final, quand moi je me suis mis dans la création de cet album, il n'était pas trop question en fait d'avoir cette collaboration. C'est vraiment venu, ça a été via le label en fait, via Aude qui est là. Un peu la belle manageuse en fait de Nowadays Record, celle qui m'a dit oh mais ça ce serait bien de faire quelque chose avec Camille, vous vous connaissez bien, vous avez un peu le vous avez des combats qui sont similaires, vous avez plein de choses en commun, etc. Bref, c'était un grand oui tout de suite. Et puis en fait, quand j'ai contacté Camille et que je lui ai proposé l'idée un petit peu dans cette idée de faire quelque chose un peu comme elle aime faire, justement, voilà, scander quelque chose, une prose en fait, mais sur une musique qui accompagne, qui va servir l'émotion un peu de son du discours. En fait, tout de suite, elle était super partante. Et puis, en fait, on a fait ça hyper rapidement. Ça a été très, très, très efficace, quoi.
Donc c'est son
Alors,
texte.
non, c'est pas son texte. C'est un texte d'un pote à elle qui écrit, lui aussi, des scénarios et tout. Le nom m'échappe comme ça, je sais plus. Mais
D'accord.
c'est pas son texte. C'est un texte que, du coup, par contre, qui existait déjà. Et en fait, qui s'y prêtait complètement. En fait, c'est elle qui a proposé ce texte-là, en fait, et qui a dit j'ai ce truc-là, j'ai ce pote-là qui a écrit. Et pour moi, ça s'y prêterait à fond. Et puis en fait, oui, ça marchait tout de suite, quoi.
Donc le titre s'appelle Odyssée, enfin Odyssey,
Ouais.
puisque c'est deux S E A comme la mer. Par rapport aux marches sur le climat, est-ce que tu as un avis sur est-ce que les marches sont encore utiles ou pas? Parce que pas mal de personnes, dont Greta Thunberg, ont à un moment dit que bon, il fallait passer à autre chose, que ça suffisait plus, qu'il fallait d'autres moyens. Est-ce que tu penses que c'est complémentaire et qu'il faut d'autres moyens ou que c'est plus d'actualité parce qu'il faut vraiment passer à autre chose? Est-ce que tu as un avis là-dessus ou
Je
pas?
pense que, en fait, j'ai l'impression que c'est complémentaire de plein d'autres trucs, mais qu'en fait, on a toujours besoin de la base, de toute façon, parce que la mission, c'est toujours de sensibiliser, voilà, de creuser, de mettre en place des actions qui sont beaucoup plus concrètes, qui sont là pour le coup, les responsabilités, enfin la responsabilité, non, mais le rôle de leader comme Greta Thunberg, comme Camille, comme etc. Là, on est dans d'autres sphères, mais en fait, en bas de la pyramide, il y a toujours une grande, grande majorité de gens qui ne sont pas sensibilisés et qui manquent d'informations à ce propos. Et puis en France, on a.
Oui, voilà,
C'est
surtout.
ça, quoi. Du coup, en France, on a cette grande tradition de manifester. Du coup, il faut continuer, quoi. Alors peut-être dans d'autres pays, ça s'y prête un peu moins. Je ne sais pas comment les autres pays gèrent les marches ou les manifestations comme ça. Mais nous, en France, une manif, ça reste toujours le meilleur moyen de faire entendre un discours de base. Donc en fait. Si pour moi elles sont encore carrément essentielles, en tout cas chez nous, ouais.
Quels sont les dilemmes auxquels tu te trouves confronté en tant qu'artiste pour être en accord avec tes convictions?
Le fait de voyager énormément, en fait, le fait d'avoir une carrière qui dépasse les frontières de France, tout de suite ça pose des enfin ça comment dire ça pose des problématiques en fait qui sont voilà très très paradoxales avec le discours. En fait, moi je me rends compte que tout est en opposition avec le discours écolo, parce que j'ai un métier qui consomme de l'électricité, j'ai un métier qui consomme du carbone, je me déplace parfois très loin pour très peu de temps. Il y a un truc où c'est très c'est comment dire au début, je me sentais un petit peu illégitime en fait de défendre ce discours-là en faisant ce métier-là. Mais en fait, j'ai réalisé aussi après que la mission en fait de l'artiste d'inspiration et de sensibilisation, elle est trop importante. Ce serait encore pire de défendre ces valeurs-là, mais de rien dire et de pas les diffuser via Fakir en fait, via mon projet. Du coup, effectivement, je me confronte régulièrement à ce truc de perfection militante où on me dit, mais ouais, mais t'es pas hyper légitime, t'es pas un super exemple. Et en effet, c'est clair, on n'est jamais des très bons exemples en tant qu'artistes saltimbanques, troubadours qui parcourent le pays pour présenter notre spectacle. Mais finalement, on est tous dans le même bateau. Et nous, on a la chance, à la limite, d'avoir une voix et d'avoir un poids et un rôle d'inspiration. Il faut mettre ça à profit, absolument, quoi.
Qu'est-ce qui te semble évident qui devrait évoluer dans le milieu musical d'urgence pour limiter un peu les dégâts?
Moi, je suis assez fervent de ce truc d'exclusivité territoriale dans les contrats de spectacle.
Oui.
J'ai conscience que le problème ne peut pas se régler comme ça, parce qu'il faut inverser complètement les mentalités, que ce soit au niveau des artistes et du cachet des artistes et des festivals et tout ça. Mais pour moi, c'est une aberration, en fait. Quand je me suis rendu compte de ça et que j'ai réalisé qu'aussi c'était ce qui mettait en péril les petits festivals, les petits événements, qui faisait aussi que du coup il y avait beaucoup de petits artistes régionaux qui n'avaient pas la chance de se produire parce que les petits festivals étaient en déclin. C'est quelque chose qui est révoltant. On est en France, quoi. C'est un pays où on a des festivals à tous les coins de rue normalement. On a des scènes artistiques, une scène une comment dire, un milieu culturel qui est foisonnant d'idées. On a eu Enfin, je veux dire, on a des salles départementales qui sont financées par un budget pour avoir une programmation. C'est extraordinaire. On est réputé comme étant les meilleurs accueils artistes d'Europe. Enfin, il y a plein de choses en fait sur lesquelles il faut pas qu'on oublie. Et du coup, ce truc d'exclusivité territoriale, j'ai l'impression, fait pourrir un petit peu de plus en plus le truc. Et le fait que les artistes mettent leur cachet aussi haut aussi. Ça, c'est clair. Moi, il y a un truc où, par exemple, mais ça demande en fait de décroître. Finalement, le nœud du problème partout, dans tous les milieux et dans la société de manière générale, j'ai l'impression que c'est que personne ne veut décroître. Et alors que c'est pour moi, c'est ça l'évidence, quoi. Et ça veut dire moins consommer, ça veut dire moins voyager, ça veut dire faire attention à plein de choses. C'est être moins connecté, ça veut dire aussi. Et du coup, ça va pas de, on va ça, on va pas du tout dans ce sens-là, mais l'évidence, c'est un peu ce truc-là, quoi. Si on veut moins polluer, il faut qu'on produise, qu'on consomme moins, quoi.
Oui, et mieux gérer nos ressources et mieux les
Ouais,
partager.
bah ouais,
Il y a beaucoup de choses à mettre en place,
carrément.
oui. Est-ce qu'il y a des artistes dont les engagements pour la planète, le climat, la biodiversité, le respect du vivant, t'ont touché?
Finalement, la dernière en date, c'est Pomme. Sans
Mmh.
être. Tu...
Je pense qu'on va lui envoyer l'interview, hein, parce
On l'a
on
beaucoup
l'a
cité.
beaucoup cité, et en plus, j'ai aussi quelque chose à dire, à redire sur
Ben ouais,
elle.
parce que. Ah, en fait, c'est rigolo parce que autant Enfin, j'écoute un petit peu, mais je ne suis pas, comment dire, très amateur de variété française et de chansons françaises, etc. Mais sa posture, son discours, enfin, ça m'arrive de tomber sur les réseaux sociaux, sur des interviews, sur des choses qu'elle dit. C'est hyper, c'est comment dire, c'est toujours hyper pertinent et hyper touchant, et je la trouve vraiment bien en porte-parole de cette nouvelle génération et de ce combat-là de l'écologie, qui on a aussi de super là-dessus. C'est rigolo parce que c'est pas forcément ouais dans la musique comme ça. Il y avait une artiste, une DJ qui m'a sensibilisé au truc des exclusivités territoriales, qui s'appelle La Fraîcheur, qui est DJ aussi dans le milieu électro, très techno. Et en fait, on avait fait une table ronde ensemble, et c'est elle qui avait pointé ce truc-là du doigt et qui m'avait dit que c'était ça un peu le truc. Elle met des choses en place très 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 concrètes dans sa tournée. Elle tourne que en train, elle prend pas du tout l'avion. Elle a un truc de, c'est que du transport en commun ou rien. Et effectivement, quand t'es DJ et qu'on te demande de faire des DJ sets avec des clés USB ou alors, voilà, il y a quelque chose d'assez évident là-dedans. Bon bah cool, il n'y a pas beaucoup de matos à transporter, c'est pas lourd, donc transport en commun. Ça c'est assez
Oui,
évident quoi.
oui.
Mais sinon je sais pas comme ça qui voilà bon bah on va rendre les lauriers à Pomme quoi parce que c'est pour le coup elle a
Oui,
vraiment
il y a Émilie Loiseau aussi qui est assez engagée, qui porte
Ah oui, c'est vrai, je connais pas son combat, faudrait que je me renseigne.
Oui, ça fait longtemps hein, aussi qu'elle est. C'est d'ailleurs elle qui a fait la musique du dernier film de Marie-Monique Robin.
Ah oui,
On voit
d'accord.
tout ce petit monde se.
Très
Oui,
bien.
ici, elle est très, très engagée aussi et d'une belle façon aussi, je trouve, et depuis très longtemps. Et ce que je voulais dire par rapport à Pomme, donc, c'est que quand je l'ai rencontrée pour l'interviewer pour Sauce Suite Planète, donc nos auditrices, auditeurs pourront retrouver cette interview, mais ça fait peut-être 2 ans maintenant. En fait, elle m'avait raconté, et il y avait deux choses qui m'avaient étonnée. Il y avait le sujet de ce qu'elle m'avait raconté et le fait qu'en fait, elle n'avait pas osé le dire jusqu'à maintenant. Enfin, elle me disait que c'était la première fois qu'elle en parlait dans cette interview. Et c'était le fait qu'elle s'était battue chez Universal pour que les boîtiers d'albums ne soient plus en plastique et que tout soit en digipack, je
Ouais,
crois, c'est
c'est
ça,
ça.
le nom pour voilà, en carton recyclé, enfin tout un concept, et que ça avait été toute une aventure, mais qu'elle avait réussi. Bon, je sais pas où c'en est maintenant, en tout cas au moment de l'interview.
C'est fort. C'est fort parce qu'en plus, moi, c'est un truc, enfin, c'est un combat qui est d'autant plus honorable parce que moi, j'ai échoué à ce combat. Avec les mêmes personnes en face. C'est-à-dire, moi, c'était vraiment au moment de la sortie de mon troisième album chez eux. Le merchandising était lancé comme d'habitude. Ils lancent du merch. Donc, ils vont produire avec leur partenaire privilégié qui est un fabricant en Chine, quoi. Et du coup, c'était.
Donc le merch, hein, pour expliquer un petit peu aux gens qui seraient un peu éloignés de ce milieu, c'est donc tout ce qui
Produits
est
dérivés,
ce qu'on
quoi.
peut acheter à la fin d'un concert ou sur le net, voilà, produits dérivés, des t-shirts, des sweatshirts, des casquettes,
Exactement.
des objets.
Et finalement, c'était. Moi, j'avais en fait préparé un peu le terrain et je m'étais préparé un peu à cette charge-là. Du coup, j'avais contacté déjà des associations françaises qui produisaient des t-shirts en replantant les arbres dans les forêts, en faisant ce genre de démarche. Et ce petit partenariat était prêt à être lancé. Et en fait, d'un coup, je me suis retrouvé confronté à un non de la part de Universal. Assez ferme et pas en plus c'était ça je pense que le pire c'était que c'était pas les gens à qui je m'adressais, pas mes interlocuteurs à moi, mes DA etc, mes directeurs artistiques chez Universal, enfin les gens qui bossent avec moi en direct, eux étaient pour, et en fait c'est plus haut que ça coinçait, et du coup c'était des personnes ou des débats auxquels moi j'avais pas accès, je pouvais pas venir et leur dire les gars c'est bizarre, non. C'était
Oui.
inatteignable quoi. J'étais confronté d'un seul coup à un truc de rouage de système un peu à la Big Brother, complètement surréaliste,
Le rouleau
oui
compresseur
voilà
des intérêts financiers.
exactement. Et du coup bah ça a été tendu à ce moment-là parce que je me suis vraiment dit je sais pas comment m'en sortir, mais je peux pas faire ça, je peux pas produire 1000 t-shirts, c'est pas possible. Et finalement le truc qui a sauvé le débat disons, c'est qu'en fait le confinement est arrivé direct après, et donc pas de tournée, pas de concert. Donc à ce moment-là je leur ai dit bon bah les gars, pas de merchandising, on n'a aucune occasion de le vendre. Du coup c'est ce qui s'est finalement passé, pas de merchandising. Mais ça a été tendu parce qu'en fait j'ai pas réussi moi à leur faire entendre raison quoi. Alors que là-dessus Pomme ça a été c'est super. J'avais déjà entendu cette histoire où finalement elle avait réussi à faire plier le truc, et sans qu'elle explique, moi j'avais conscience de la fight qui avait dû avoir lieu derrière, et je me disais oh là là, ça a dû chauffer quand même dans les trucs. Alors c'est cool pour Pomme parce que en plus elle a un impact aussi je pense sur la chanson française, elle a une présence sur scène et une présence médiatique qui est non négligeable, et je pense que Universal, ça leur a fait un peu plus peur que Fakir, tu vois. Fakir, c'était peut-être plus niche, plus dans un coin, où ils se sont dit c'est pas grave, on peut un peu lui marcher dessus. Mais ouais.
Et dans le temps, tu penses que toi, ton combat, c'était avant le sien ou est-ce que tu sais à quel moment ça s'est joué, qui est passé en...
Bah, je pense que ça devait être à peu près en même temps parce que moi c'était juste avant le confinement, c'était fin 2019, tout début 2020.
Parce que peut-être aussi que moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu racontes, peut-être qu'il y a le fait que sa notoriété, tout ça, à l'époque, a pu avoir plus de poids ou quoi. Mais je pense aussi que quelquefois, on se bat contre quelque chose et on est déçu parce que sur le moment, il n'y a pas de résultat. Mais en fait, la répétition de personnes qui viennent défendre la même chose, eh bien, finalement, il y en a un qui va réussir à emporter, à faire changer les choses. Et, mais parce que déjà, plusieurs sont passés avant et que du coup, ça commence à faire un espèce d'engrenage et, et ça commence à faire bouger les consciences et les gens sont un petit peu amenés, malgré eux, à écouter.
Carrément,
et à transformer un processus.
Je pense que c'est, en plus, c'est un truc qui a dû se passer parce que je voyais bien qu'en fait, en parlant de ce combat-là, j'avais des réponses positives, des réactions positives en face. En fait, j'avais des gens chez Universal qui me disaient, mais bien sûr, évidemment, tu as raison. Il faut qu'on mette ça en place. Et puis, ils se retrouvaient bloqués. Donc, effectivement, peut-être que ça a monté les étages petit à petit jusqu'à arriver tout en haut. Et puis qu'enfin, ils se disent, bon, vas-y, on débloque le truc, on fait l'effort. En tout cas, chapeau. Bravo, Pomme.
Oui. Est-ce qu'il y a des documentaires, des films, des livres qui t'ont fait progresser dans cette prise de conscience que tu pourrais recommander, conseiller?
Je pense qu'on peut partir de la base et puis parler de l'intégralité de Miyazaki. Et ça, je pense que c'est très, très important
Je suis tout à fait d'accord.
C'est très important à regarder. C'est très fondateur, c'est super. Nausicaa de la Vallée du Vent, Princesse Mononoké particulièrement, c'est eux un peu qui parlent de ça de la manière la plus frontale. Donc ça, je pense que ça a été première claque. Ensuite, il y a des documentaires. Il y avait un documentaire qui m'avait beaucoup, beaucoup plu et que j'ai regardé pas mal de fois qui s'appelait « Il était une forêt ». Impossible de retrouver par qui c'était. Et voilà, mais c'était un documentaire qui explique un petit peu comment la forêt fonctionne comme un super organisme, en fait, comme une espèce d'un seul être vivant. Qui est complètement relié par les champignons dans la terre et tout. Enfin, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire.
Les écosystèmes.
Voilà.
L'interdépendance, les écosystèmes.
C'est fou. Moi, j'avais été très marqué par La Marche de l'Empereur aussi à l'époque, et puis par sa BO fait par Émilie Simon. Je pense que ça a été aussi une des personnes qui m'a peut-être mis sur la voie de faire de la musique électronique. Qu'est-ce que j'ai eu qui m'a énormément marqué sur ce plan-là? Là, moi, je suis très consommateur de science-fiction et l'histoire aussi qui me touche à ce niveau-là vachement, c'est Dune de Frank Herbert. Parce que, en fait, bon, voilà, ça parle d'énormément de choses et beaucoup de politique, mais ça parle aussi d'une planète, Arrakis, qui est dans un cycle perpétuel de désert, puis forêt luxuriante, puis redésert, puis forêt luxuriante. Et du coup, derrière, en fait, en lame de fond, il y a une espèce de fable un peu écologique avec toute cette espèce de les vers des sables qui sont vénérés comme des dieux, qui sont en fait les espèces qui régulent la planète Arrakis, etc. Enfin, il y a quelque chose en fait de très relié à l'écologie. Et dernièrement, je m'en suis rendu compte. Parce que en ce moment, je relis Dune et puis le film de Villeneuve est sorti il n'y a pas longtemps. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais bien sûr, en fait, il y a ça caché derrière, quoi, en filigrane. Voilà, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Il y a beaucoup, en fait, dans la science-fiction, c'est assez monnaie courante d'être sur la Terre ou sur une autre planète qui a été ravagée par l'industrie et qui se retrouve à être désertique, être très pauvre, un peu morte, un peu aride, parce que, voilà, on est dans la période post- ère humaine, industrielle, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui...
Oui, des séries aussi, il y en a de plus en plus, des séries sur le sujet.
Ah bah ouais, même de Last of Us et tout, alors après, c'est des virus, ou c'est la pollution, ou c'est des trucs, mais généralement, tout est un peu relié, quoi.
Et quelles sont les choses importantes dans ta vie qui t'imprègnent et qui peuvent réapparaître dans ton processus de création?
C'est vaste. Je sais les choses importantes dans ma vie qui pourraient réapparaître dans mon processus de création. Je pense que cet amour un peu pour la science-fiction et puis les mondes un petit peu imaginaires, c'est très important, c'est très imbriqué avec ma création musicale. Les jeux vidéo aussi, tout simplement. Moi, c'est un peu mon média privilégié, c'est un peu les jeux vidéo. C'est monstrueux la quantité de jeux aujourd'hui qu'il y a et qui sort constamment. Et en fait, c'est une source d'inspiration assez inépuisable parce que ça évolue souvent dans des mondes qui sont imaginaires. En fait, moi, je crois que je suis pas très Fakir, c'est pas très ancré dans le monde réel. Ça parle de l'imagination, ça parle de choses qui n'existent pas vraiment, de choses qui issues du rêve ou voilà. Du coup, ma vie réelle déteint très peu sur ma musique, c'est plus ma consommation de médias, je fais de la musique pour voyager, pour faire voyager et pour voyager parce que c'est comme ça aussi que je la consomme et du coup bah ce voyage il passe au travers de effectivement voilà, de films, de séries, de jeux vidéo, plus qu'il ne passe que par la vie réelle, quoi.
Oui, et comme je te le disais avant qu'on commence cette interview, moi j'ai beaucoup aimé l'album quand je l'ai écouté, quand je l'ai découvert, et ce qui m'a vraiment enthousiasmée, en fait, c'est que c'était un moment où j'avais des difficultés qui faisaient que j'avais pas un grand moral, j'étais pas très en forme, et ça m'a tellement apaisée, cette musique m'a fait du bien. Il y a vraiment des musiques qui ont ce pouvoir-là, en fait, comme d'un baume, quand on met un baume relaxant pour essayer de se détendre un peu. Et en même temps, c'est dans le sens de faire du bien, mais c'est pas
C'est pas la musique de relaxation, quoi.
Oui, voilà, pas du tout, parce que les rythmes sont... Donc, il y a un côté très énergisant en même temps. Donc, c'est bien parce que ça fait du bien et du coup, ça donne un peu la pêche pour repartir au combat,
super.
Ce qui est précieux.
Ben, c'est un peu
Voilà.
le but. Et finalement, il y a un truc aussi dans ce truc de soin, enfin d'objet de soin. Moi, je consomme la
Oui.
musique pour ça aussi, pour me soigner. Et je parle du voyage à chaque fois parce que, en fait, je me dis... En fait, je conçois le voyage comme un moyen de se soigner toujours. Il y a un truc où ça nous remet à l'essentiel, ça nous reconnecte,
Oui.
etc. Et en fait,
Oui.
du coup, c'est super que tu me dises ça. Et puis, ça me fait super plaisir déjà. Mais en fait, le fait que l'album puisse ou que la musique puisse soigner, guérir, faire du bien, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me parle, en fait. C'est comme ça que je consomme la musique. C'est pour ça que je la consomme. Et du coup, c'est pour ça que je la fais aussi quelque part, quoi.
Oui. Quelques mots de Music Declares Emergency?
Oui, c'est super, c'est une super, comment dire, organisation. En fait, c'est quelque chose, je pense, qui manquait pas mal. C'est mettre en commun, en fait, tout simplement, toutes les idées de tous les acteurs, c'est-à-dire que ce soit des artistes comme Pomme, qui a cette idée de plateforme de covoiturage pour aller voir ses shows, ou les festivals avec leurs toilettes sèches et les différents partenaires. En fait, c'est un peu un think tank, on appelle ça, enfin, genre une sorte de grosse boîte à idées, et tout le monde est convié à débattre, à partager ses idées pour essayer de faire évoluer toute l'industrie musicale française vers quelque chose de plus écolo et plus éco-responsable, quoi.
Et donc, ils ont un site sur lequel je vais mettre le lien, sur lequel nos auditrices et auditeurs peuvent aller prendre connaissance, s'ils ne connaissent pas déjà, des actions qui sont mises en place, des artistes aussi qui y participent. Tu as participé aussi à la compilation caritative du collectif de DJ For Climate Action en 2021. Donc là, c'était un titre spécifiquement écrit pour ça
Oui,
ou
en
pas?
fait, c'était un exercice qui était
Oui.
hyper, d'ailleurs, hyper chouette. C'est qu'en fait, c'est une collaboration DJ for Climate Action et Greenpeace. Et en fait, Greenpeace nous a mis à disposition
Ah, d'accord.
un pack de samples, si tu veux, comment dire, un dossier d'enregistrement qui sont allés faire dans la nature. C'est-à-dire, voilà, il y a des enregistrements de glace qui craque, de baleines qui chantent, de machin comme ça. Et en fait, ils nous ont mis ça à disposition en disant, faites un son à partir de ça. On peut rajouter ce qu'on veut, évidemment, mais le but du jeu, c'est de se servir au maximum de sons réels de la nature enregistrés par ces gars-là. Et ensuite, ils ont fait une compilation et voilà quoi. Ouais, c'était un super, comment dire, un super projet et qui avait du sens, quoi.
Oui. Est-ce que tu accepterais de nous dire quelques mots de l'esprit dans lequel tu as créé les titres de ce nouvel album Talisman? Parce qu'on note quand même que les titres des morceaux ne sont peut-être pas anodins. On a Talisman, on a Amulette, on a Aura.
Ouais, il y a des choses, il y a un truc connecté à la magie. En fait, Talisman, il est là pour plusieurs choses. Il y a déjà cette espèce de boucle que je voulais boucler, qui avait démarré avec Animal et Végétal, qui sont deux autres albums. Du coup, Talisman, c'était un peu ma contrepartie minérale. Mais je voulais pas que ce soit juste minéral, je voulais pas que ce soit juste un caillou. Il fallait que ce soit un peu magique. Et du coup, le talisman pour moi, c'est un petit peu dans l'inconscient collectif, j'ai l'impression que c'est un peu une pierre avec des pouvoirs, quoi. Un truc, un objet un peu qu'on garde sur soi, un objet de soin, un objet qui porte bonheur. Et du coup, ouais, en fait, il y a toujours cette relation à l'énergie, à ce qu'on dégage, qui est très importante, sans rentrer trop dans l'ésotérisme, parce que pour moi, le meilleur moyen de comment dire, de mal comprendre l'énergie, c'est d'essayer de la théoriser. Et du coup, il y a un truc où, voilà, le talisman, c'est quelque chose de connecté à un monde qu'on maîtrise pas, à une énergie qu'on maîtrise pas, mais on peut la recevoir, on peut l'accueillir et se laisser un petit peu porter par elle. Et ça encourage ça. Aura, pour moi, c'est c'est vraiment ça comme chanson. Même moi, une de mes préférées de l'album, c'est Crystal. Je pense
Crystal, j'ai lu ça,
qu'est un
oui.
peu peut-être la moins accessible parce qu'elle est très chromatique, elle est très
C'est un peu
ouais, elle est
contemplatif.
très pour le coup, elle est beaucoup plus voilà, elle est moins énergique, mais elle a ce truc de c'est la plus imagée pour moi, celle qui fait partir le plus loin. Et ouais, en fait, cette relation à la magie, je l'ai depuis le début, depuis toujours, parce que pour moi, la nature, elle est un peu magique, en fait. On n'a jamais fini de comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, c'est un moyen de relier un peu ça, quoi, nature et magie.
D'accord. Et donc, ça explique aussi, j'imagine, les visuels,
Ouais.
les petites visuels qui sont soit qui accompagnent les chansons sur YouTube ou qui accompagnent les titres sur Spotify aussi. C'est très minéral
Ah oui,
aussi.
complètement. Ouais, c'est vraiment là, c'est l'ambiance caillou, cristal, pierre magique, quoi.
Oui. Est-ce que tu peux nous présenter tes invités sur cet album et comment tu les as choisis? On a parlé de Camille Etienne déjà, mais il y en a quelques
Ouais,
autres.
il y a, bah, en fait, c'est un album de copains. J'ai l'impression que, moi, j'ai pas tout, enfin, comment dire, je ne fantasme pas de collaboration parce qu'on sait jamais l'humain qui se cache derrière. Et en fait, là,
Oui.
c'était carrément le cas. Bon, bah, Camille, on en a pas un peu parlé. Tilacine, c'est un super ami. On se connaît depuis très très longtemps et en plus il s'avère qu'on est voisins à Paris, donc on se voit aussi par la force des choses. Et puis là, pareil, ça a été une collab très naturelle. Voilà, j'étais dans mon album, je lui ai juste proposé quoi. Je lui ai dit bon bah, ça te dit, on fait un track ensemble. On se connaît depuis longtemps. C'est quand même bête qu'on ait rien fait. Et puis pouf, ça s'est fait très naturellement. Dana Williams, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au gré de sessions à Los Angeles il y a des années, parce qu'en fait on a déjà bossé ensemble. On a eu un morceau sur un EP Karma Prana qui est sorti en 2017 qui s'appelait Give Me a Sign. Et en fait, dans cette session, on avait fait ce morceau-là, Give Me a Sign, et ce morceau Ghosts qui était jamais sorti, qui restait dans mes disques durs à pourrir pour l'instant. Donc c'est un vieux morceau en fait, Ghosts, c'est vraiment 2017, 2018, un truc comme ça. Et c'est quelqu'un que je revois toujours avec plaisir quand je vais aux États-Unis. Donc voilà, ça fait un petit moment quand même, mais à chaque fois que j'y vais, on bosse ensemble ou alors on se voit. Et la dernière, c'est Anna Yadi, avec qui j'ai déjà bossé aussi sur mon deuxième album All Glows en 2018. Et en fait, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et puis que je vois régulièrement quand je vais bosser, pour le coup, à Londres. Donc voilà, pareil, très naturellement, très très potes quoi. À la base, on n'était même pas en plus censé enregistrer un titre ensemble. Et en fait, la personne avec qui on avait rendez-vous a annulé. Et du coup, je l'ai appelé et j'étais là, bon bah je suis en studio, si ça te dit, viens, on fait un track. Moi j'ai ce morceau-là qui traîne. Et puis en fait, ça s'est fait en 2 heures parce qu'on s'entend déjà bien. Donc en fait, il n'y a pas tout le boulot de rencontrer l'autre et de voilà, de se dire ah voilà, tu fais ci, tu fais ça. Non, là c'était très 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 évident, très automatique quoi. Donc ouais, c'est un album de copains. Et puis il y a Hugo aussi sur Burning, qui est un peu la comment dire, c'est un peu on a décidé de le mettre en featuring sur ce morceau, mais en fait il est en featuring sur tous les morceaux de l'album Hugo, parce que c'est le boss, le fondateur de Nowadays Records, et c'est vraiment lui qui est, je dis souvent, en plus d'être un de mes meilleurs amis, c'est aussi le meilleur pote de Fakir. Il connaît le projet par cœur, il sait très bien d'où je viens, où je vais, qu'est-ce que je veux dire par là, et il sait aussi me challenger. On vient pas de la même génération, il a 10 ans de plus, donc il a aussi un background plus important, plus qui, et puis pas la même sensibilité, pas le même, pas le voilà, pas la même comment dire culture. Donc en fait, c'est ça a été mon miroir artistique pour cet album, et c'était un super miroir.
Et il y a un titre, moi, qui m'a un petit peu intriguée, c'est Olélé, qui
Oui.
a quelque chose d'enfantin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce
Oui,
titre?
Olélé, bah du coup c'est un espèce de remix en fait de la chanson traditionnelle congolaise Olélé Moliba Makassi, qui parle du fleuve Oulélé en fait qui passe au Congo. Et sa première apparition, j'ai regardé ça parce que sa première apparition c'était dans Tintin au Congo. Alors c'est pas un super modèle, mais en fait à un moment donné ils sont sur une
Oui,
pirogue, Tintin et
moins
Capitaine
controversé
Haddock,
depuis, oui.
et cette pirogue est conduite. Voilà, exactement. Et conduite par des Noirs qui sont là en mode, alors c'est très 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 comment dire, ouais, c'est très touchy maintenant. Et en fait, ils chantent cette chanson-là parce que c'est une chanson pour ramer, pour qu'ils se coordonnent. Et en fait, c'est une chanson qui a été ensuite reprise. Je sais pas comment elle est arrivée là, mais moi je l'ai chantée à l'école. Et en fait, c'est le cas de beaucoup de gens de ma génération. C'est une berceuse qu'on apprenait à l'école primaire ou un truc comme ça en chant. Et moi, je l'ai chantée. Donc, en fait, c'est une porte d'entrée vers mon enfance absolue, Olélé. Et j'ai l'impression, là, en la jouant en live et en la faisant tourner partout en France, que c'est le cas pour pas mal de gens. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui reprennent cette chanson. Quand j'ai fait chanter, tout le monde reprend en chœur Olélé, comme si tout le monde connaissait que
Ah
c'était évident. Et c'est assez étonnant, quoi. Ouais, du coup, c'est
Moi, je ne
ouais,
connaissais
voilà.
pas. Oui. Bon, donc les mois, c'est bien parce que pendant on a été 2, 3 ans où on ne pouvait plus poser la question aux artistes. Donc, dans les mois qui viennent, il y a une tournée, il y a des concerts.
Ouais, c'était un peu
C'était
triste.
sujet tabou et tellement douloureux. Donc là, on peut reposer cette question, on en profite. Donc, pour avoir tes dates, puisque j'ai vu qu'il y avait pas mal de dates dans les temps qui viennent, moi, je vais mettre les liens, comme d'habitude. Alors, sur le site sausuiteplanète.com, je vais mettre la playlist de l'album avec quelques-unes des vidéos pour illustrer ce dont on a parlé et puis le titre avec Camille
Ah,
Etienne. Et sur
zut.
les applis de podcast où là on peut pas mettre on peut juste mettre des liens mais on peut pas mettre les visuels, les vidéos et tout ça dans les textes qui accompagnent. Donc je vais mettre les liens. Quel est le site ou la plateforme ou le réseau social sur lequel il y a le plus d'infos
Oh bah c'est
pour trouver tes dates de concert et...
Instagram. Instagram, c'est celle que je gère le plus.
D'accord, on va mettre l'Instagram de Fakir. Voilà, il va me rester à te souhaiter. Est-ce que tu souhaites annoncer est-ce que tu as quelques dates en tête proches ou importantes que tu souhaites mentionner?
Bah, il y a eu pour moi la date qui arrive, il y a un petit peu de temps, donc c'est bien, mais c'est la salle Pleyel le 2 février 2024. Donc ça,
Ah oui,
c'est assez
bravo.
important. Merci. Donc la billetterie est ouverte, ça y est, c'est lancé.
D'accord. Un grand merci,
Merci à
Fakir, pour
toi.
ce temps. Tu vois, on a passé pas mal de temps finalement.
Carrément.
Donc, un grand merci pour ce temps que tu nous as accordé. Je te souhaite une bonne continuation pour les scènes à venir et puis ton avenir en général.
Merci beaucoup. Eh ben super, merci de m'avoir reçu.
Merci et au
À la
revoir. À
prochaine.
bientôt,
Au
j'espère.
revoir.
Chères auditrices, chers auditeurs de SoSuite Planète, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seul tous les contenus des podcasts et du site internet sousuiteplanète.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 euros par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de SoSuite Planète sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas, à tout de suite.